absolument agréable de la vie. Merci d'être présent dans cette émission. Je vous rappelle que vous êtes au cœur de l'ouvrage Israël et la bombe atomique, la face cachée de la politique américaine. Alors, monsieur Mohamed Abdelaziz, expliquez-nous comment le contexte historique dans lequel se trouve l'État hébreu l'aide à échapper à la politique américaine farouchement opposée à la prolifération nucléaire.
Les États-Unis d'Amérique, depuis le début, ont une vision un peu de ce qu'ils appellent la position d'ambivalence de Washington, dans la mesure où l'Amérique a permis, en quelque sorte, à ce qu'ils appellent les pays amis comme l'Inde et Israël, de développer leur capacité nucléaire, tout en dans la face, s'opposer farouchement de manière claire et nette contre toute tendance de prolifération nucléaire. En ce qui concerne l'État hébreu, on sait très bien que la CIA suivait pas à pas la construction des réacteurs de Dimona depuis 1957, entre 1957 et les années, donc l'année 1960, là où le réacteur commence à entrer en fonction. Par ailleurs, donc, la CIA a disposé des rapports clairs et nets sur l'avancement du réacteur, mais ils ne font pas grand-chose pour justement essayer de stopper le réacteur, parce que les Israéliens disaient que c'était une usine de fabrication mais on sait très bien que du côté israélien, la CIA dispose bel et bien, depuis le début, des informations selon lesquelles ce réacteur ressemblait bel et bien à la construction ou à la forme de réacteur français comme à Marcoule en France, dans le sud de la France. Sachant que le programme nucléaire italien remonte bel et bien presque à la création de l'État
hébreu.
Oui, tout à fait, puisque en 1948, on trouve bien que le professeur Dostoevsky développe bien un procédé de fabrication de lourdes. Et puis c'est le professeur David Bergman qui va prendre le relais par la suite, appuyé par le premier ministre de l'époque, David Ben-Gurion, et puis le jeune Shimon Peres qui va par la suite suivre des démarches auprès de la France pour développer la construction de réacteurs et le développement de programmes nucléaires israéliens. On arrivera par la suite aux années 50, et c'est le conflit de 1956 qui va accélérer en fait les démarches israéliennes en matière de l'acquisition et le développement de programmes nucléaires. Et c'est en 1956 que la démarche devient claire et Ben-Gurion devient persuadé et convaincu que la seule sortie pour les terroristes après la bombe atomique, puisque en 1956, l'Israël prend le Sinaï, mais c'est l'Union soviétique de l'époque qui va menacer Paris et Londres et Tel Aviv les Israéliens ne se retirent pas tout de suite du Sinaï. Et c'est à la sortie de la crise que Shimon Peres se trouvera à Paris et il va conclure les accords secrets entre Tel Aviv et Paris. Que la France aide en quelque sorte la construction de réacteurs de Dimona dans le désert de Negev.
Je disais à l'époque de Guimolé.
Tout à fait, c'est le gouvernement de Guimolé qui va en gros essayer en cachette, et le général de Gaulle n'est pas au courant de ces accords secrets entre le gouvernement de Guimolé et Shimon Peres.
Alors, expliquez-nous, c'est d'abord une question. Israël a été le premier pays dans la région à posséder l'arme atomique.
Oui, tout à fait, je le confirme bien que les Israéliens sont bel et bien une puissance nucléaire depuis 1967. Et à la fois américains et français, ils savaient très bien que les Israéliens possèdent à la fois un programme nucléaire militaire et que la fabrication de la première bombe israélienne intervient bel et bien juste avant la guerre de 67. C'est peut-être la raison pour laquelle Nasser va envoyer ses avions survoler le réacteur à deux reprises au mois de mai, ces avions vont être abattus par l'armée israélienne au-dessus de réacteurs de Dimona, ce qui va pousser à l'époque un certain Ariel Sharon et Rabin à rentrer fait que dans une phase un peu de conflit avec le gouvernement israélien et c'est ce qu'on appelle la révolte des généraux de Tsahal et qui voulait obliger le gouvernement à mener une attaque préventive avant que la Terre songe à attaquer le réacteur.
En 1973, Eisenhower aurait envisagé de recourir à l'option 509 en fait au nucléaire israélien.
Oui, tout à fait. Alors, c'est non seulement en 73, mais rappelez-vous que la guerre de 67, qui en grande partie est déclenchée à cause de l'entrée en fonction de réacteurs de l'ENA et la volonté des Égyptiens, notamment de Nasser, de détruire le réacteur. Donc, ce contexte militaire et à la fois de tension non visible va provoquer la guerre de 67. On sait très bien que les Israéliens, avant de mener les attaques contre les positions militaires à la fois en Syrie mais aussi en Égypte, ils vont mettre leur arsenal en alerte en 1967, de prévision que jamais la guerre terminale. Mais on arrive donc en 1973, dans laquelle on est dans un contexte largement favorable aux Israéliens, mais le fait que Anwar el-Sadat arrive quand même à franchir tous les obstacles au canal Mouné et puis la ligne Barlev, et bien les Israéliens sentent une menace et un danger de la part des Égyptiens, et les pertes de jours de 7 octobre, le 8 et le 9 sont des pertes considérables et incontables, jamais vues et imaginées par l'armée israélienne. Et là, ils sentent le danger et M. Beynan va jouer une mise en scène considérable. Il va placer donc des missiles en plein désert pour qu'ils soient visibles à la fois par le satellite américain mais aussi par les satellites soviétiques. Il va placer des missiles pointés évidemment sur les capitales arabes. Et c'est l'ambassadeur de Minsk aux États-Unis qui va rencontrer le secrétaire d'État à l'époque qui était jeune et il va faire une pression considérable. Et d'abord, le président Nixon n'est pas d'accord, mais à la fin de journée du 2 mai, on va arriver à un accord selon lequel les armes nucléaires israéliennes sont, semble-t-il, été en alerte. Et c'est cette alerte-là qui va obliger Washington à accorder une aide militaire d'urgence. Et il y aura par la suite, à partir des 14, l'aide au pont aérien, qu'on en parle beaucoup, et la guerre va changer de visage.
On va revenir un peu avant, en 1963, le président Kennedy impose une visite d'experts américains à Vimona. Le réacteur fonctionne déjà, Ben Gurion s'y oppose, et puis démissionne car il refuse de plier aux pressions américaines. Son successeur sera Levi Eshkol et Golda Meir qui permettent quelques résultats. Il y a eu des concessions américaines en fonction des administrations. C'est bien ça?
Non, si vous voulez, il n'y a pas forcément eu de concessions, mais il y a ce que j'appelle l'œil, fermé de Washington. Ça veut dire que Washington, en gros, à la fois le département d'État et la Maison Blanche, lors de l'administration Eisenhower, mais aussi lors de l'administration Johnson, il y a une politique de fermer les yeux et rien à voir. Donc les informations disponibles à la CIA qui suivait la construction des réacteurs, qui a alerté ici et là, on se demande pourquoi Washington n'a pas réagi. Mais je dispose des documents selon lesquels il y a bien eu des rétentions d'informations et certains conseillers ont carrément n'ont pas voulu donner des informations au président, notamment le président Johnson, parce qu'ils estimaient que cela nuirait à la compréhension de l'administration. Mais aussi, si vous voulez parler de ce contrat, il y a eu une demande claire de la part du président Kennedy qui aurait aimé que les Israéliens arrêtent leur politique en matière de programme nucléaire parce que cela était considéré comme une course aux armements dans la région.
Et ça lui a coûté sa vie?
Pardon?
Ça lui aurait coûté sa vie?
Écoutez, je ne sais pas mettre un lien direct entre le coût de la vie du président Kennedy et le programme de Dimona, mais le fait est qu'en 1963, c'est Shimon Peres qui va essayer de répondre au président Kennedy qui voulait mettre fin au programme nucléaire. et que c'est Shimon Peres qui va improviser la fameuse phrase « Israël ne sera pas la première, le premier pays à introduire les armes nucléaires dans la région ». Mais depuis, on a...
Shimon Peres rajoutera, mais Israël ne sera pas le deuxième pays.
Oui, par la suite, il sera, donc il ne sera pas forcément la deuxième. Israël n'attendra pas pour être le deuxième par la suite. C'est une politique que vous voulez, c'est la continuité de la politique de l'ambiguïté israélienne. Et c'est d'ailleurs pour cela que je considère que cette politique n'a pas forcément servi la doctrine de la dissuasion israélienne qui souffre drastiquement et qui pour moi était un échec considérable puisque, si vous voulez, des acteurs comme les Iraniens ou les Égyptiens avec Nasser et Sadat ont considéré que le verre n'était pas forcément à moitié plein mais pouvait être à moitié vide.
Monsieur Mohamed Abdelaziz, vous avez des documents officiels, c'est bien ça?
Je dispose d'une quantité considérable de documents officiels et ces documents, j'ai été rassemblés depuis 1955 et je peux vous dire que c'est pas une main sincère, mais cela revient à dire que la plupart des documents sont noircis, ils sont détruits, vous ne pouvez pas les trouver et je sais que vous trouvez, c'est déjà noirci, je vous donne beaucoup d'exemples dans mon ouvrage et aussi je bénéficie des informations sur la guerre de 73 dans laquelle j'ai trouvé des documents. Impressionnant dans le sens que ça nous aide un petit peu plus à comprendre pourquoi les choses se sont passées de cette façon-là. Cela revient à dire, excusez-moi, je termine là-dessus, avant que vous me posiez votre question, concernant l'administration Bush actuelle, cette administration se trouve Bush aussi devant un dilemme considérable de ne pas pouvoir arrêter le programme nucléaire iranien.
Ben écoutez, je ne vous poserai pas d'autres questions, parce que moi, ça a bien raison. Le temps qui nous a été imparti à l'innovation ferme, ça a été fortement intéressant. Je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage Israël et la bombe atomique, la face cachée de la polémique américaine. On peut trouver dans cet ouvrage des documents, j'allais dire, inédits. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Je vous remercie infiniment, monsieur.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, au revoir. C'est la première fois qu'un dirigeant israélien reconnaît publiquement que l'État hébreu possède l'arme atomique, un secret de polichinelle, depuis les révélations demandées à Evan Mourouk. En 1956, la perte du programme nucléaire israélien Shimon Peres avait convaincu la France de doter Israël d'une capacité nucléaire dans le cadre des négociations secrètes entre les deux pays sur le préparatif de l'opération de Suez contre l'Égypte. Informés de cet accord, les États-Unis se sont engagés à ne pas faire pression sur le dossier nucléaire contre Israël. Ils ne déclaraient pas publiquement qu'ils détenaient la bombe atomique. Avec nous pour la deuxième partie de l'émission consacrée au débat, M. Thierry Mestan, président du réseau de Claire, vous êtes également écrivain, et puis M. Guy Thibault, notre grand reporter, vous êtes avec nous à partir de Tunis.